Donc bonjour à chacun et à chacune. Je n'ai peut-être pas vu tout le monde. Je voudrais commencer ce message. Donc voilà, d'abord vous dire que j'aime les perles, les petites, les grandes, de toutes les couleurs, j'aime les perles. À un moment donné, j'avais beaucoup de colliers avec plein de perles. Et donc je pense, en ce moment, je ne mets presque plus rien. Voilà, comme celle de Lydie par exemple. On ne va pas lui piquer à la sortie. Je pense que dans nos vies, il y a des perles de grand prix, comme celles dont il est question dans la Bible, et elles peuvent refléter un peu la gloire de Dieu. On trouve par exemple dans Matthieu 13, au verset 46, quelqu'un a trouvé une perle de grand prix, puis il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a achetée. Et donc, je vous invite ce matin à découvrir quelques-unes de ces perles tout au long de ce message. D'abord, j'aimerais vous transmettre une première perle qui s'appelle « La cabane ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre.
Magnifique.
D'accord. Donc, je sais que certains l'ont déjà lu. Jean-Luc et Annette l'avaient lu. Je dois dire que devant cet écrit, certains sont complètement rebutés et d'autres le trouvent très enrichissant et vont avoir envie de le lire et de le relire parce qu'il y a vraiment, je dois dire, des perles dans le dialogue de cet homme avec ses trois fils. Je vais vous le dire juste après. En fait, il s'agit d'une tragédie. La mort d'une petite fille tuée par un serial killer en Amérique et l'on n'a jamais retrouvé le corps de la fillette. Le père, pendant des années, est poursuivi par un compagnon qu'il en arrive à nommer le grand chagrin. Une question le taraude. Pourquoi n'ai-je pas pu sauver ma petite Missy ? 3 ans et demi après, il découvre un mot étrange dans sa boîte aux lettres. Il est écrit « Mackenzie, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu me manques. Je serai à la cabane le week-end prochain. Si tu as envie de m'y retrouver, signé Papa. » La cabane, c'est ce lieu où on a retrouvé la veste de Missy tachée de sang, mais pas son corps. D'abord surpris par ces quelques phrases, Mackenzie va se demander s'il s'agit d'une blague de la part du facteur ou peut-être du serial killer qui vient de le narguer jusque chez lui. Ouf, peut-être autre chose. Et puis, sans en parler à personne, il est très uni à sa femme, mais sans en parler à personne. Alors qu'elle est partie en week-end avec ses 3 enfants, il va décider à aller seul à la cabane, à ce rendez-vous insolite. Et là, devinez ce qu'il va y trouver ? Les 3 personnes de la Trinité. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Mais c'est un peu particulier parce que papa, qu'on appelle père, notre père, de manière parfois un peu trop religieuse, trop respectueuse, se présente à lui sous les traits d'une mama afro-américaine avec sa tenue. Et puis Jésus se présente un peu à lui comme un homme ou très orientaux, il a le visage un peu oriental, mais il est habillé comme un baba cool des années 60. Et l'Esprit Saint, qui pour l'occasion va s'appeler Sarayou, lui apparaît tel un souffle et prend différentes expressions selon les circonstances et crée autour de lui des fractales. Alors, Christophe va vous montrer quelques-uns de ces exemples. Ça, c'est une fractale de Dieu. Et en fait, j'étais surprise par ce mot et sont montés en moi 2 mots qui pouvaient définir Sarayou, souffle. Il s'agit pour moi de fragrance, parfum de grand prix et pétales. Les pétales de rose qui s'ouvrent et qui montrent la beauté, la merveilleuse ingéniosité de Dieu pour créer. Le parfum touche le sens de l'odorat et le pétale touche notre vue. Et ça vient du mot fractus en latin qui veut dire briser. Et en fait, une fractale est un, c'est vraiment très mathématique, hein, c'est un objet géométrique infiniment morcelé dont des détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. Et en zoomant sur une partie de la figure, on peut trouver toute la figure, on dit qu'elle est auto-similaire. Et avec l'exemple que vous avez de la suivante, s'il te plaît, la fougère, on se trouve avec une fougère qui a une longue tige et des branches, mais chaque branche a à nouveau des petites fleurs, et ça peut être à l'infini. Et pour moi, c'est très important de voir, c'est que l'Esprit Saint continue à œuvrer, continue à créer, et il fait des choses magnifiques. Moi, je crois que Dieu n'a pas fini la création. À chaque fois qu'un bébé naît, je pense qu'il y a une goutte de l'Esprit Saint qui vient et qui fait que c'est une créature merveilleuse. Quand on voit dans la nature, et c'est énorme la nature, hein, un peu partout, il y a tellement de belles choses. Même maintenant, là où c'est l'automne, j'ai l'impression qu'il y a de telles couleurs dans certains endroits, j'aurais envie que ça reste longtemps. Malheureusement, c'est dur que quelques heures ou quelques jours. Voilà. Donc, je vous encourage à lire ce livre. Si vous le voulez, on le prêtera. Il peut être sur Amazon, pas trop cher, ou à la CLC. Donc voilà, vraiment, et il est en anglais. Il a été traduit à des millions d'exemplaires en très peu de temps. Ça a été une traînée de poudre du bouche à oreille. Il est en français, mais il est aussi en anglais, puisqu'il est anglais. Voilà. Mais je le dis pour nos amis coréens, s'ils parlent anglais. Alors, une autre perle tout à fait... Tu as montré toutes les fractales ? Oui ? Alors, une autre perle beaucoup plus personnelle, c'est il y a environ 25 ans, je rentrais du Café Chrétien un soir. Le Café Chrétien, c'était un bus à deux étages basé au centre-ville de Lille. Et on y était le mercredi et le dimanche de 16h à 22h. Et une fois, bon, ça nous prenait plus de temps parce qu'il y avait les préparatifs et tout ça. Et à 22h30, je crois, je rentre à la maison et j'entends une petite voix en moi qui dit « écris ». Ça m'est arrivé rarement dans ma vie, hein. Mais j'avais vraiment cette phrase « écris ». Et j'ai entendu « j'ai planté dans ton cœur un olivier verdoyant dont l'huile abondante sera une onction guérissante pour beaucoup ». Je vous permets de prendre cette phrase pour vous si vous le désirez. Non, il faut que tu ailles plus loin. Tac. Et donc, je me demandais ce qui se passait et en même temps, j'avais pleinement conscience que cela venait de Dieu. Ce n'était pas moi. Et peu à peu, j'ai décortiqué cette phrase insolite et elle résonnait très clairement en moi, dans mon cœur, alors que je rencontrais beaucoup de blessés de la vie au Café Chrétien. Des jeunes toxicos, des personnes alcooliques à la vie toute cassée, des personnes prostituées, hommes ou femmes, ou encore ces jeunes beurs, ça m'a marqué, qui arrivaient au bus Café Chrétien à l'heure de la prière et qui nous écoutaient prier, j'ose dire presque religieusement. Ça m'a beaucoup marqué. Ils avaient soif de quelque chose, ces jeunes. Et donc, je vais revenir à chaque petit morceau de cette phrase. Le premier, c'est « j'ai planté dans ton cœur ». Au moins, j'étais sûre d'une chose, c'était pas moi qui avais planté. C'était, j'imagine, Dieu, Esprit, Jésus. Et je me suis dit, mais dans mon cœur, c'est un drôle d'endroit pour planter quelque chose. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Au moins, il n'avait pas effectué une transplantation au niveau de mes neurones. Il les avait laissés bien en place. Il s'est occupé de mon cœur Et je pense que c'est souvent ce qu'il veut faire. C'est notre cœur qu'il veut toucher. J'ai planté dans ton cœur un olivier verdoyant. Je suis allée voir dans la Bible, ma Bible Omnine, et j'y ai vu plein de passages où il est question de l'olivier. Et il y en a un plus particulièrement où il est parlé de l'olivier verdoyant. C'est dans le psaume 52 au verset 10, où il est dit « Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Quelle promesse! Une promesse d'intimité avec mon Dieu. Une promesse de confiance, d'abandon dans sa présence. Et ça fait une semaine qu'on a commencé notre jeûne et je me suis dit, j'ai vraiment eu à cœur de vous dire, je pense que Dieu veut avoir avec nous, avec chacun de nous, un face-à-face. Il veut qu'on enlève le voile qui est parfois sur nos cœurs ou sur nos yeux, etc. Et il veut voir notre visage. Et je pense au visage de Moïse qui reflétait la gloire de Dieu. Il veut nous voir dans ce cœur à cœur où on peut être transfiguré par la grâce. C'est donc une invitation à ne pas nous cacher, mais au contraire à nous dévoiler, sans honte, sans retenue devant notre Dieu. Il peut tout voir, il peut tout connaître de nous. Il désire que nous passions du temps en sa présence, pas simplement pour venir lui quémander sa bénédiction pour nos enfants, pour nos jeunes, etc., mais d'abord pour être avec lui. D'abord pour être avec lui. Et enfin, on a vu quand on était en Israël comment nos ancêtres juifs pilaient les olives, les broyaient. Et on a eu l'exemple au village de Nazareth d'une. Ils mettaient des noix, des olives en dessous d'une grande roue, et la roue était actionnée par un âne qui pilait progressivement, et ça durait des heures, des olives, des olives, des olives. Et en fait, pour faire un litre d'huile, il faut entre 4,5 kg à 8 kg d'olives. Donc vous imaginez, hein. Et en fait, je me suis retrouvée. Quand j'étais en Israël, j'ai été amenée à cueillir des olives. Il y avait des arbres magnifiques, des oliviers centenaires. Et on pouvait passer des heures à cueillir ces olives. On avait un appareil spécial. Et je me suis dit, mais quel travail, quel travail. Et pour terminer, il est question de l'huile abondante, qui sera une onction guérissante pour beaucoup. Cette onction, cette notion d'onction, là vraiment, je pense vraiment au Saint-Esprit. L'Esprit Saint est cette onction guérissante pour beaucoup. Elle ne vient pas de nous. Moi, je peux prier avec quelqu'un et je vais dire que tu sois béni, que tu sois guéri, mais c'est l'Esprit qui le fait. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. Et il le fait avec beaucoup de délicatesse dans nos vies brisées, mais il le fait aussi dans la vie de nos jeunes. Une autre perle, je la trouve dans Ésaïe 61, où on la retrouve plus tard dans Luc 4. Après avoir été tenté au désert pendant 40 jours, Jésus se rend à la synagogue, comme si c'était son tour de lire la parole. Il a donc pris le texte dans Ésaïe. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au servant, il s'assit. Et dans la synagogue, tous les yeux se tournent vers lui et il dit, aujourd'hui même, cette prophétie se réalise. Encore une belle perle, non? Quelle promesse! L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et au fil des 20 siècles écoulés, combien de prédicateurs ont repris ce passage d'Ésaïe 61 ou de Luc 4 pour dire à leurs ouailles, mais il faut aller pour combattre, pour gagner des âmes pour le royaume, etc. On sait, il y en a eu des centaines et des centaines qui ont pris ce passage, et nous-mêmes on le prend. Prendre ce passage en disant, mais maintenant le Seigneur nous donne cette mission. En relisant ce mandat de Jésus, j'ai été frappée à nouveau par la présence de la Trinité, des trois personnes de la Trinité. L'Esprit de l'Éternel m'a oint. L'Esprit éternel m'a oint Jésus. Est-ce qu'on a conscience que le Dieu trinitaire est présent tout entier pour le rachat de toute l'humanité? Dans les évangiles, on rencontre, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais on rencontre plusieurs passages où il est fait également référence de Dieu Père et de l'Esprit Saint, qui viendra comme un consolateur et il sera donné à la Pentecôte. Ce mandat tout spécial de Jésus, Dieu fait homme, trouve son achèvement glorieux à la croix et au Golgotha, au tombeau vide. Oui, elles sont glorieuses, la mort et la résurrection de Jésus. En revenant à ce texte, est-ce que chacun d'entre nous, avec beaucoup d'humilité, on pourrait dire ces paroles de Jésus en y mettant son prénom? Je relis dans Luc 4 maintenant, dans la version seconde, Colette ou Robert ou Sylviane ou Jean-Claude, ou, voilà. On peut dire Michel, Rémi, on peut dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Notre mandat sur la terre n'est pas autre chose que celui-là. Parce que l'Esprit Saint repose sur moi, sur nous, alors il nous met en marche pour accomplir ce que Jésus de son vivant faisait sur la terre. Guérir, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, rendre la vue aux aveugles, qu'ils soient aveugles physiquement ou spirituellement, mais aussi rendre libres les opprimés et le bouquet, annoncer une année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce, elle existe depuis 20 siècles. Ça fait 20 siècles qu'on a une année de grâce de la part du Seigneur. Donc, il existe bien d'autres perles dans la parole de Dieu. Je vous en cite quelques-unes. Ésaïe 58, le vrai jeûne selon le cœur de Dieu. La parabole du fils prodigue, l'enfant égaré qui revient à la maison. Et on est tous quelque part des enfants égarés qui rentrent. Iti maison, c'est pour nous aussi. Et puis il y a les multiples miracles et guérisons de Jésus, et il nous montre le chemin. C'est tant d'intimité avec ses apôtres, mais aussi la conversion de Saul de Tarse après la mort et la résurrection de Jésus, ça continue. Et puis Pierre qui parle à Corneille, et qui lui dit, mais le salut, il n'est pas seulement pour les juifs, il est pour les non-juifs, vous y avez droit, etc. Et puis aussi, Ézéchiel 37, cette vallée d'ossements desséchés qui vont reprendre vie quand le prophète Ézéchiel va prophétiser sur eux la vie. Et pendant notre jeûne de 3 semaines, pour notre jeunesse, je crois que certains passages d'Ézéchiel 37 vont résonner de manière prophétique. Nous devons leur prophétiser la vie. Chacun de nous doit prophétiser la vie pour notre jeunesse, les jeunes qui nous sont proches comme les moins jeunes, pour qu'ils reviennent à la maison. À bien des égards, on voit parfois une partie de notre jeunesse comme ces ossements desséchés. Ils n'ont plus d'espérance. Et pour certains, à peine sortis de l'adolescence, ils ont déjà usé leur vie jusqu'à la corde, ils sont bouts. Et ici, à Wavrin, on a vu plusieurs suicides de jeunes. Et il y en a, à différents endroits, des très jeunes qui se suicident, qui ne vont pas bien. Ma question, c'est est-ce que ça nous parle aux tripes ? Est-ce que ça nous donne envie de prophétiser à l'esprit et de dire à l'esprit de faire revivre notre jeunesse, de lui insuffler un vent nouveau, le vent de l'Esprit Saint ? Alors, dans Ézéchiel 37, il est écrit : « Alors nous dirons à l'Esprit Saint, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » Il y en a qui sont tout à fait bien vivants, mais parfois au niveau du cœur, il y a un vide énorme, et ça, c'est pas bon, ça va pas. Puis il y en a d'autres qui ont vraiment déjà leur vie toute cassée. Et pour eux aussi, il y a une telle espérance en Jésus. Et je vais terminer avec cette réflexion. Je pense que de la Pentecôte sur nos vies va découler une Pentecôte sur nos enfants, nos petits-enfants, sur toute la jeunesse. Je le répète, de la Pentecôte sur nos vies va découler une Pentecôte sur nos familles, nos enfants, petits-enfants et notre jeunesse. C'est vrai qu'on est au mois d'octobre et on n'est pas au moment de la Pentecôte. Hein. On va pas faire de... On est un peu en décalé, mais bon, je pense que ça peut être Pentecôte tous les jours. Et c'est Lydie qui m'a inspiré un peu quelque chose. Elle m'a dit il y a quelques semaines, 2 ou 3 mois, « Ah, c'est vrai, Colette, on ne te voit plus beaucoup prophétiser comme tu le faisais auparavant, il y a quelques années. » Et je me suis dit « Oups, là là, bon, touchez, coulez. » Je n'ai pas su quoi te répondre, hein, je dois dire. Et ça m'a fait réfléchir sur une Pentecôte renouvelée pour chacun de nous, si nous le désirons. Et je voudrais simplement vous laisser avec les 9 dons de l'Esprit et les 9 fruits de l'Esprit. Je ne sais pas s'ils apparaissent bien là, mais je vais vous lire les dons, les fruits d'abord. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et dans 1 Corinthiens 12, au verset 4 et suivant, il est écrit, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À nouveau, on retrouve la Trinité. Dans les dons, il y a le même esprit. Dans les services, il y a le Seigneur. Dans les diverses activités, il y a Dieu. Voilà. Et maintenant, je vous laisse ces différents dons. L'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même esprit va donner une parole chargée de connaissance. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce même et seul esprit donne de guérir les malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. À un autre, le discernement de ce qui vient de l'esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. Et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. On se trouve donc avec un héritage de 9 fruits et de 9 dons de l'esprit. Et j'imaginais, alors j'ai le droit de rêver, hein, on a un don de rêve qui est important. J'imaginais que le Seigneur nous disait, allez, prends ton panier ce matin et viens te servir dans la grande provision de mes dons et de mes fruits de l'esprit. Viens, car tout est prêt. Et il nous ajoute un peu plus loin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est clair, les dons et les fruits, s'ils ne sont pas l'explicitation de ce que fait l'Esprit en nous, il ne se passera rien. Il faut vraiment que ce soit l'Esprit qui nous anime. Et quand il nous anime, je pense qu'on est capable de faire ce qui est dit là, des miracles, des guérisons, des paroles de connaissance, des prophéties. Voilà, on est capable de faire tout ça. Et puis on est aussi capable d'avoir les fruits, parce que les fruits, à des moments, je me dis que j'en manque. Hein. Patience, persévérance, voilà, la fidélité, la persévérance. Il y a des fois, je suis un peu collée au pilori, là. Hein. Et donc je voudrais simplement, si vous le désirez, c'est qu'on fasse quelques groupes et qu'on puisse prier pour simplement se dire on a envie de recevoir tel don ou tel fruit. On ne va pas prendre très longtemps, on va faire 4 groupes environ, je ne sais pas combien on est, et on va dire, ben voilà, je voudrais avoir tel don et tel fruit de l'esprit. Et ensemble on priera pour ça, pour chacun. Et on n'est pas des super, hein, mais le Seigneur peut faire beaucoup. Donc voilà, on prend quelques chaises là, là-bas, on fait 3 ou 4 groupes et puis on fait en sorte que ce soit une prière animée de l'esprit.
Voilà, si vous êtes toujours dans la prière, restez dans la prière. Mais si vous devez partir, vous êtes libre de partir. Mais je ne veux pas non plus briser. Et j'aimerais juste dire pour la cabane, c'est un super livre. Hein. Ça guérit. C'est un livre plein de guérison. Mais ce n'est pas un livre de théologie. Hein. C'est un livre de guérison, pas de théologie.